Un rapport est sorti sur la biodiversité. Vous travaillez sur la biodiversité, notamment celle du littoral, de la mer, catastrophique en nous disant on perd des espèces. Est-ce que vous pensez qu'il a fait vraiment prendre conscience d'une urgence? On voit l'urgence du changement climatique. Est-ce qu'on s'inquiète de la baisse des captures possibles de poissons en mer?
Non, je ne pense pas, d'après ce que dit le rapport et d'après ce que je peux voir dans mon quotidien, quand je vois les prises de conscience, notamment quand je discute avec des décideurs et des personnes politiques. Déjà, le rapport est pas vraiment connu. Ils sont très peu à le lire, même s'il est à destination des politiques. Il y a très peu de politiques qui l'ont lu, alors qu'il a été adopté à l'unanimité par tous, on va dire, les grands pouvoirs politiques de tous les États. Après, ça peut se comprendre parce que c'est difficilement perceptible. Le changement climatique, on commence à réaliser aussi, malgré toutes les sorties que l'on fait, malgré toutes les modélisations qu'on peut faire, on commence à en prendre conscience parce qu'on commence à en voir les effets. Les décalages des récoltes, des vendanges par exemple, les tempêtes qui se succèdent, les gros coups de mer, ce genre de choses. Là, la biodiversité, c'est difficile à percevoir parce que déjà, les espèces qui disparaissent ne sont pas forcément connues. Il y a quelques espèces emblématiques qui ont disparu, le rhinocéros noir par exemple, le dodo de Maurice, mais ça reste des cas qu'on a l'impression qu'ils font partie des musées. Mais ce qui est le plus sournois dans l'érosion de la biodiversité, c'est qu'avant que l'espèce disparaisse, ce sont les effectifs qui disparaissent. C'est-à-dire pour une même espèce, on a des effectifs qui se réduisent considérablement. Alors, tout scientifique en biologie, en écologie, sait que dès l'instant qu'une espèce perd une grosse partie de ses effectifs, c'est une espèce qui est condamnée parce qu'elle rentre dans ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, la spirale d'extinction.
Est-ce que c'est le cas des poissons?
Ah, les poissons, c'est le plus spectaculaire. Alors, c'est toujours difficile de faire des évaluations de quantité de poissons. Mais sur la base des données que l'on a, il y a déjà quelque chose qui est significatif, c'est la baisse de la taille. Alors ça, il y a un gros article qui a été fait il y a quelques années, notamment porté par l'IRD, l'Institut de Recherche pour le Développement, et qui avait fait un état mondial de la baisse dramatique de la taille des poissons. Et actuellement, le rapport remet l'accent là-dessus. On n'a plus de gros poissons, on n'a quasiment plus de gros poissons. C'est-à-dire un poisson, dès l'instant qu'on le laisse tranquille, ben comme beaucoup d'organismes, il grossit. Et non, ben j'explique simplement parce que ça, des choses qui paraissent évidentes, et pourtant on n'en prend plus conscience. Que ce soit à la pêche à loisir ou la pêche professionnelle, on prend de moins en moins de gros poissons. Et c'est un cercle vicieux parce que dès l'instant que les poissons ont des tailles de plus en plus réduites et que la demande est de plus en plus grande, ça veut dire qu'il faut pêcher encore plus d'individus pour satisfaire les besoins alimentaires des populations humaines. Ce qui veut dire qu'on accentue, on accélère la disparition de telle ou telle espèce de poisson.
Vous avez dit que nous, les hommes, nous ne connaissions pas exactement notre place dans le milieu naturel. Et donc, nous ne le respections pas.
Oui, et c'est normal. Toutes les espèces du vivant font leur place dans le milieu, on va dire par défaut, ils essayent des tentatives. Et c'est comme ça que l'évolution, au sens darwinien du terme, a marché. C'est-à-dire, au fil des temps, on appelle ça la fitness en écologie évolutive. C'est-à-dire, au fil des temps, chaque espèce a affiné sa place par rapport à l'environnement, par rapport aux autres espèces. Nous, êtres humains, on est une espèce animale comme les autres. Ce qui veut dire qu'au fil de notre histoire, on a affiné notre place. La seule chose qui nous différencie par rapport aux autres espèces, c'est nos capacités intellectuelles. Il y a un collègue de professeur muséum qui résume notre capacité de façon suivante. On est la seule espèce qui, lorsqu'on est dès l'instant, dans les premières années de la vie, on sait qu'on va mourir. La plupart des autres espèces ne savent pas qu'elles vont mourir. Donc ça veut dire qu'on peut, entre guillemets, comprendre et, on va dire, les excuser, le fait d'essayer beaucoup de choses, de se rater et finalement de se faire. L'évolution est un processus d'affinage pour trouver sa niche qui se fait par défaut. L'évolution est une dynamique par défaut. L'être humain rentre dans cette dynamique-là, mais c'est dommage que finalement notre capacité intellectuelle ne nous aide pas à nous sortir un petit peu de ce modèle animal classique. Et actuellement, on fonctionne depuis des années, que ce soit les dictatures, que ce soit les différentes formes de politique collectiviste. Tout ce qu'on a essayé pour l'instant, c'est quelque part, c'est normal, ça montre qu'on est une espèce animale, mais montre aussi qu'on ne sait toujours pas se servir de notre cerveau.
Vous dites aussi que le problème, il est politique et vous avez des propositions à faire pour la prochaine campagne municipale à Marseille.
Eh bien sûr, les politiques, parce que les politiques doivent prendre des décisions. Le problème, c'est que les décisions, que les grandes décisions à prendre sur le plan environnemental et sociétal, parce que environnement et société, c'est complètement lié, elles ne sont pas forcément, dans un premier temps, très populaires, elles ne sont pas forcément très sympathiques, du moins dans un premier temps. Donc, un politique, quel qu'il soit, va avoir du mal à prendre ses grands engagements environnementaux et sociétaux, même si les politiques, faut pas se leurrer, sont pas des idiots, ils ont aussi une vision, mais après, ils ont aussi leur préoccupation électoraliste pour arriver où ils sont. Ce qui veut dire que les décisions gênantes, ou alors du moins, dans un premier temps, je dis vraiment dans un premier temps non populaire, ils vont avoir du mal à les prendre. Donc ce qui va les aider à les prendre, ce serait qu'au niveau de la population humaine, la société humaine, on bouscule ces politiques pour leur dire, ben voilà ce qu'on attend de vous. Et les Marseillais en priorité pourraient attendre que les politiques à venir s'engagent pour avoir une ville qui soit plus agréable à vivre, plus propre, plus environnementale, plus responsable sur le plan sociétal et environnemental. Et parmi les exemples, alors c'est vraiment des exemples précis, il y aurait des choses qui changeraient complètement la figure de la ville, c'est assumer par exemple nos cours d'eau. On a trois cours d'eau principaux, l'Uvonne, le Jarret et les Égalades. Alors Euromed a déjà un projet autour des Égalades sur lequel on a travaillé, on a montré qu'il fallait faire un gros travail en amont parce qu'il y a quand même des gros problèmes de pollution, mais le Jarret, découvrir le Jarret et faire une sorte de corridor vert et bleu au sein de Marseille, ça changerait radicalement, sortir les véhicules du Jarret et l'Uvonne, essayer de lui donner une allure de fleuve côtier et de dégager les berges et de redonner quelque chose, une respiration bleue et verte dans tout l'axe de la vallée de l'Yvonne, qui se traduirait in fine par une amélioration considérable de la qualité de l'eau sur la rade de Marseille. Revoir ce système où l'Yvonne est détournée dans les égouts, parce que le problème des égouts, il y a non seulement le pluvial, une partie du pluvial de Marseille qui va dans les égouts, mais il y a aussi l'Yvonne qui est détournée là-dessus. Ce qui veut dire que lorsqu'il y a des fortes précipitations, l'Yvonne reprend son cours normal et tout est rejeté dans le Prado. Ce qui génère des taux de pollution pour quelques jours qui sont considérables. Si on redonne des cours d'eau, parce qu'un cours d'eau, normalement, a des capacités d'auto-épuration qui sont très fortes. Il faut juste leur redonner un petit peu de naturalité pour qu'ils puissent activer leur auto-épuration. Donc on pourrait avoir des cours d'eau qui structurent la ville, qui soient superbes, qui soient des lieux de balade et qui permettent d'avoir une eau de meilleure qualité au niveau de la rade de Marseille.
Et vous suggérez aussi de prendre toute la rade de Marseille, qui a ses récifs artificiels d'ailleurs, oui, dans justement le parc national des Calanques.
Mais ça a été encore un effet de clientélisme politique qui a fait que la ville de Marseille a refusé que la zone, on va dire la rade entre le Frioul et la côte, soit exclue de la zone de cœur de parc. Parce qu'au début, c'était un cœur de parc. Mais le maire à l'époque voulait satisfaire le lobby des plaisanciers. Or, ça, je peux l'entendre, parce que c'est un homme politique. Tant pis s'il n'a pas la vision qui fait qu'il aurait propulsé Marseille sur une autre dynamique, mais c'est déjà pas mal d'avoir le parc. Mais les plaisanciers et les usagers pourraient avoir aussi... On peut demander aussi à tout un chacun d'avoir cette clairvoyance, d'avoir cette ambition pour ces générations futures, de se dire, mais nous, on veut une ville exemplaire. Une ville exemplaire, si on accepte que l'ensemble du littoral marseillais soit dans le cœur de parc et bénéficie de l'ingénierie territoriale apportée par une équipe de parc national.
Alors enfin, pour finir, puisque je vous vois bien parti, qu'est-ce que vous pourriez dire aux Marseillais qui, finalement, tournent encore bien le dos à la mer ?
Je suis Marseillais de souche, ça s'entend. Arrêtez, sortir de la caricature du Marseillais, arrêtons d'être Marseillais moyens, voire petits, et soyons des Marseillais qui sont ambitieux, ouvert sur le monde, parce que la grande force de Marseille, c'est cette ville ouverte sur le monde. Marseille a toujours aussi donné un exemple, justement, de cette ouverture vers d'autres pays, vers l'ouverture sur la Méditerranée. Marseille est en train de se refermer, alors qu'à un moment donné, elle s'est ouverte. Donc soyons des Marseillais ouverts, soyons des Marseillais responsables, sortons de la galéjade, de la caricature pagnolesque dans laquelle on veut nous enfermer, et soyons des Marseillais modernes. On est au XXIe siècle, on peut inventer notre Marseille. On a été précurseur, on est la plus vieille ville de France, mais soyons aussi la plus moderne. Et on a des capacités. Alors, il y a quelques temps, j'avais fait tout un bilan sur la capacité de naturaliste de Marseille, c'est énorme. On est dans un écrin de biodiversité qui est quasiment exceptionnel. Et j'aimerais bien que les Marseillais en prennent conscience. Et soyons fiers de ça. Et pour moi, demain, Je suis supporter de l'OM raisonnablement, mais j'aimerais que lorsqu'on arrive à la gare Saint-Charles, on ait un immense poster qui nous dise « Vous rentrez dans le territoire exceptionnel de la métropole marseillaise, dans le territoire des Calanques, et qu'on soit fiers de notre environnement naturel, qu'on ait envie de le partager et d'éduquer tous ceux qui viennent rencontrer ces merveilles naturelles, qu'on les éduque et qu'on leur donne tout le bon côté du Marseillais. La culture marseillaise, quelque chose de noble, de beau, et qui a été massacrée, bafouée par des dérives politiques et une forme de xénophobie qui n'est pas du tout à l'image de ce qu'est le Marseillais fondamentalement. »